Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Alors, Mario est là. Mario, qu'on retrouve tout de suite. On a vu aujourd'hui hein, beaucoup de cas, 499, mais faut répartir ça. Allons-y plutôt pour la moyenne, à peu près 300 par jour au cours de la dernière semaine. On est rendu à 30 cas par million d'habitants. Ça commence à être inquiétant. Il n'y a pas une zone qui change de couleur, cependant.
Non, pas encore. Ma compréhension, moi, c'est qu'il y en a deux qui sont sur le bord. C'est Québec et le Bas-Saint-Laurent. Ce qui sauve ces deux régions-là pour l'instant, c'est que il n'y a pas d'augmentation des hospitalisations qui soit significative. Dans certains cas, il n'y en a pas du tout. Et donc, ça, c'est le critère qui tient le reste. Là. Par contre, je parlais aujourd'hui à un des médecins du Bas-Saint-Laurent qui m'expliquait, c'est parce que la première génération de cas, c'était des jeunes, 15, 20, 25 ans, pas juste des jeunes, des très, très jeunes. Là. Donc, ils sont pas malades ou peu. Mais si la prochaine contamination, ces jeunes-là, évidemment, ils ont un travail, ils ont des parents, ils reviennent à la maison. Si la maladie est transmise à des gens plus âgés, là, on sera vite à risque. Si on se retrouve avec des cas hospitalisés, on sera vite à risque de voir ces régions-là glisser vers la couleur orange. Pour ce qui est des cas perdus à Montréal, ça reste un peu bizarre. On a toute une série de petits problèmes de gestion, de petites faiblesses de notre gouvernement qui transparaissent à travers la pression que met la COVID. Et là, on nous dit aujourd'hui à Montréal, dans les quatre derniers jours, le nombre de cas que vous aviez, là, il en manquait à peu près entre 50 et 60 chaque jour et qui n'avaient pas été répertoriés. Bizarre.
Et c'est long avant que les gens aient les résultats aussi, parce que les tests, ça devient tout un problème à gérer. On sent le ministre un peu impatient, comme l'avait déjà été sa prédécesseure, Mme Mécan, aussi, il faut le rappeler, dans la première vague.
Oui. Par contre, je pense qu'il y a deux différences. Je pense que Christian Dubé est quelqu'un qui va avoir plus de mordant, là, je vais le dire dans ma façon, mais qui va faire un peu plus peur lorsqu'il va lever le ton parce que les choses fonctionnent pas. La deuxième chose, c'est qu'il arrive avec un mandat fort de M. Legault. M. Legault a changé de ministre de la Santé. M. Legault a changé de ministre de la Santé parce qu'il était pas de bonne humeur. Il avait l'impression que le réseau ne répondait pas à l'ancienne. Et donc, Christian Dubé a les coups des franges. Les gens, les présidents des SUS, les patrons des SUS et des CIS, ils savent que s'il peut les congédier, là. Si lui est pas de bonne humeur, si lui trouve que ça fonctionne pas. Il a les coups des franges, il a le mandat du premier ministre pour poser tous les gestes pour que les résultats arrivent.
Maintenant, il y a dans le Bas-Saint-Laurent, je vous écoutais ce matin, vous aviez le directeur de la santé publique de cette région-là, il y a des gens testés positifs qui ne veulent pas s'isoler.
Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça, Pierre. Tu sais, quand on dit là, qu'il va falloir prendre des mesures, la population attend des mesures plus dures. Bon, on a parlé de comportement un peu... Des gens un peu désinvoltes. Non, même pas. Des gens un peu désinvoltes qui disent « Ah, il n'y a pas beaucoup de cas. » Je remonte, il y a trois semaines, il n'y a pas beaucoup de cas. Oui. On se fait des petits parties. Ça, c'est pour dire que c'est de la négligence mineure. Là. C'est un petit peu d'insouciance. Mais dans le cas de gens, ils ont le test. Là. Ils sont positifs. Ils sont contagieux. Ils sont un propagateur naturel de la maladie. Et là, le directeur de la santé publique dit « Leurs propres amis viennent décourager. » Et envoie à la santé publique des captures d'écran de leurs réseaux sociaux. Regardez, il vient de publier des photos. Il est dans un party. Il a été testé positif hier, avant-hier. Puis présentement, il est avec d'autres gens. Il est dans un party. Là, c'est un niveau d'irresponsabilité. C'est un niveau de négligence qui est grave, à mon avis, qui va devoir être sanctionné. La santé publique va devoir avoir les pouvoirs avec la police au besoin. Quelqu'un qui est testé positif, moi, puis qui prend pas les mesures, qui collabore pas, qui se met pas en quarantaine, c'est le genre de geste qui va devoir être sanctionné. Si on veut être sérieux et montrer du sérieux à freiner la pandémie, à éviter que des régions comme ça passent au code orange avec toutes les complications qui viennent avec, peut-être des entreprises qui vont faire faillite, t'sais, à un moment donné, il faut que la responsabilité de l'individu, s'il est pas capable de la prendre tout seul, il faut qu'elle lui soit imposée.
Mario, on vous écoute demain 10h sur LCN.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Alors Vincent, on revient donc sur cette tragédie qu'il y a eu hier alors qu'un automobile a foncé sur le trottoir à Montréal-Nord. On se demandait parce que l'individu était conscient de ses gestes, mais là on sait maintenant qu'il y aura des accusations.
Oui, le comparu au palais de justice de Montréal, donc sous plusieurs chefs d'accusation, il s'appelle Marco Bernier, 38 ans, accusation de délit de fuite, conduite dangereuse causant des lésions, agression armée, le véhicule qu'on considère donc comme une arme, quelqu'un qui, on va faire une évaluation psychiatrique, peut-être la présence de drogue, Bloomberg également. Alors, l'enquête
pour l'instant, on considère quand même qu'on a des conditions pour déposer des accusations.
Exact.
Quitte à ce que son avocat, après ça, essaye de les faire tomber en disant qu'il n'était pas...
Parce qu'on va quand même faire donc évaluation pour voir s'il est apte à faire face à des accusations. Alors, on en est là, mais l'évaluation se fait.
Et finalement, pour les amateurs de politique américaine, on va avoir un événement un peu inédit ce soir.
Ouais, à 20h, Joe Biden qui fait son town hall. Alors, va faire face à des questions du public, un peu comme Donald Trump.
Jusque-là, c'est un classique des campagnes américaines.
Oui, mais évidemment, on est en temps de COVID. Alors, l'organisation de CNN a décidé de faire un drive-in. Alors, c'est en Pennsylvanie, ville où est né Joe Biden, à Scranton, et la foule, ce sera des voitures comme au cinéparc. Et Anderson Cooper va inviter des gens à venir poser leurs questions.
Ils vont sortir de leur auto?
Mais je me demandais si on allait faire un chemin pour se rendre en voiture au micro ou si on va juste marcher. Ça, je ne l'ai pas vu, mais c'est vraiment un stationnement. On a à peu près une centaine d'invités.
En auto.
Ils pourront être à côté de leur voiture, mais ou dans la voiture. Et à la radio, ils vont écouter ce que Joe Biden dit.
Réponse.
Comme au cinéparc. Alors, ce sera un peu particulier. C'est à 20h ce soir, et Joe Biden, il faut dire, il a fait souvent de petits discours
mais
prévus.
Pour les caméramans, pour l'équipe qui essaie de rendre une image de tout ça. Je comprends que l'image de Biden va être assez simple à aller chercher, mais le reste, il me semble, c'est un peu sportif, là, des autos. Là.
On risque de voir beaucoup de voitures américaines. Je ne sais pas si on a choisi ça. Mais entre autres, Biden, qu'on a souvent vu dans des trucs préparés, mais là, faut que ça se passe bien
ce
soir.
Toi, tu ne penses pas qu'il est à son meilleur dans l'improvisation, là? Hein?
Ben, on verra. On va sortir son côté très empathique. Donald Trump, ça n'a pas super bien été son town hall. Alors, on verra pour Joe Biden ce soir, 20h.
Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain.